Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Il y a un an, le 20 mai 2015, a été publié le décret et l'arrêté qui définissait les grands principes de la réforme du collège. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Alors, cette réforme du collège, j'en rappelle quelques-uns des principaux points. La suppression des classes bilangues et européennes, la création d'enseignements supplémentaires avec d'une part les enseignements pratiques interdisciplinaires dès la 5e et le temps d'accompagnement personnalisé, la création de 4000 emplois équivalents temps plein, le renouvellement des programmes sur tous les niveaux, bref, et d'autres points que vous aurez peut-être à cœur de rappeler. Pourquoi, 12 mois plus tard, cette réforme passe-t-elle si mal ?
Peut-être d'abord parce qu'elle est présentée, pardonnez-moi, comme vous venez de le faire.
Alors présentez-la comme vous voudriez le faire.
Parce que, en fait, vous venez, mais je ne vous jette pas la pierre personnellement, mais vous venez exactement de la présenter en partant des points polémiques pour finir par ce qui semble être, d'après votre propos, accessoire, c'est-à-dire quand même le plus important pour la réussite de tous les collégiens de France. Donc si vous me permettez, je vais reprendre cette présentation. C'est quoi cette réforme ? Ça faisait des décennies que notre pays l'attendait. Est-ce qu'elle est parfaite ? Sans doute pas. Est-ce que ça existe, une réforme parfaite ? D'ailleurs, on en parlera sans doute tout à l'heure. Entre l'idéal et la réalité, il y a toujours un chemin. Et ce chemin, d'ailleurs, il est fait de discussions avec les principaux partenaires de l'école. Il est fait de compromis avec les organisations syndicales qui font qu'à la fin, vous arrivez à un résultat qui n'est sans doute pas parfait, mais qui est quand même celui qui va permettre au collège d'aller mieux. Pourquoi le collège pourrait aller mieux grâce à cette réforme ? D'abord parce que cette réforme, c'est une réforme qui donne plus d'autonomie aux établissements, aux collèges. 20% de temps des collèges, 20% du contenu du temps des collèges sera décidé par les équipes pédagogiques de chaque collège. C'est ça la première chose la plus importante. Ça veut dire que dans chaque territoire de France, on va pouvoir s'adapter aux besoins, aux réalités des difficultés de ses propres élèves et donc leur apporter ce dont ils ont le plus besoin. S'ils ont plus besoin de faire du français tout simplement parce qu'ils sont vraiment pas à niveau, ben on en fera plus au-delà de ce que prévoient les programmes scolaires. Donc autonomie. Deuxième chose, de nouvelles pratiques pédagogiques. C'est quoi les nouvelles pratiques pédagogiques ? Et c'est là que le bât blesse pour certains. C'est que on sort un peu de la classe, oui, c'est vrai. On sort un peu des disciplines. Et au lieu de se contenter finalement de déverser un savoir théorique sur des élèves qui, on le voit bien, pour 1 sur 4 n'y comprennent rien et sortent du collège sans maîtriser grand-chose, on va prendre davantage de temps pour vérifier qu'ils ont bien acquis les connaissances et les compétences qui nous semblent fondamentales. Donc, on va les faire travailler davantage en petits groupes, en les accompagnant de façon individualisée en fonction de leurs besoins et en interdisciplinarité. Qu'est-ce que l'interdisciplinarité ? C'est pas un gadget ou un truc monstrueux qui annonce la fin de la civilisation ? Non. L'interdisciplinarité, c'est le fait qu'un professeur d'histoire-géo, un professeur de maths, travaillent ensemble pour faire mieux comprendre des concepts aux élèves dont ils voient bien qu'ils ne les comprennent pas lorsqu'ils les saucissonnent simplement d'une matière à une autre.
Ça, c'est votre présentation
donc,
des faits.
On va les faire travailler sur des projets.
La polyvalence et peut-être aussi une manière de casser les disciplines. On va en reparler. Nous sommes en compagnie de Céline Rouden, qui est responsable du service politique de La Croix. Une question pour la ministre, Céline Rouden.
Oui, alors on estime qu'en fait il y a entre 15 et 25% des établissements qui ont encore des difficultés à mettre en place cette réforme. Elle est assez complexe. Vous avez parlé des enseignements interdisciplinaires. Il y a aussi l'accompagnement personnalisé. Est-ce qu'au fond, il n'aurait pas été sage de mettre en place progressivement cette réforme ? Parce que il y a beaucoup, notamment la FCPE qui pourtant soutient la réforme, a mis en garde contre des inégalités territoriales.
En fait, les débats politiques sont ainsi faits, mais je crois que la matinée est faite justement pour commenter la façon dont tout ça se passe, sont ainsi faits qu'on est tous à un moment obligés de tomber dans la caricature de ce qu'on est et donc de dire des choses de façon plus grossière qu'on aimerait le faire. Donc puisque vous m'offrez enfin un plateau où on peut parler finement des choses, bien sûr que tout en assumant totalement cette réforme, en la soutenant mordicus, en étant persuadé qu'elle améliorera le sort de nos petits collégiens, j'ai conscience que c'est une réforme difficile, exigeante pour les enseignants en particulier, parce que c'est eux, en effet, qui, à la rentrée qui vient, vont devoir faire avec de nouveaux programmes, une nouvelle évaluation, une nouvelle organisation des collèges. Ça fait beaucoup. Alors, votre question, est-ce qu'il eût été préférable d'étaler ça dans le temps ? Le problème, c'est qu'on perdait la cohérence de l'ensemble. Parce qu'en fait, pourquoi on a fait tout ça ensemble ? Parce que précisément, si on veut impulser un changement dans les collèges, il faut, par exemple, je disais, plus d'autonomie pour les équipes pédagogiques. Mais plus d'autonomie pour faire travailler les élèves en petits groupes, vérifier qu'ils ont bien compris, ça réclame des programmes moins lourds que ce qui existait par le passé. Parce que si on reste avec les mêmes programmes où les enseignants continuent à courir après le temps en ayant toujours peur de ne pas les finir avant la fin de l'année et en n'ayant donc jamais le temps de vérifier que les élèves les avaient compris, ben, ça ne change rien. Il fallait une nouvelle évaluation, parce que si on dit bah tiens, on va introduire les fameux enseignements interdisciplinaires pour habituer les élèves non seulement à comprendre le sens de ce qu'ils font, mais à apprendre en faisant des projets concrets, collectifs, et à les défendre à l'oral, bah, il faut que dans l'évaluation, par exemple le nouveau brevet, on retrouve une épreuve orale qui n'existait jusqu'alors pas, il n'y avait que de l'écrit. Donc alors, en fait, tout ça est fort cohérent.
Justement, sur ce nouveau brevet et sur les modes d'évaluation, sont quand même des pratiques étranges auxquelles on assiste. On voit par exemple qu'un professeur de mathématiques peut avoir à juger une épreuve orale d'histoire des arts. Est-ce que c'est bien raisonnable ?
Alors, ce sont les professeurs qui auront été en charge des enseignements pratiques interdisciplinaires, donc ils ne découvriront rien.
Ils ne découvriront
rien. Ils auront
rien,
été amenés à travailler avec leurs autres collègues.
Sur Est-ce ces... que ça n'est pas plus pratique et plus rationnel d'avoir des professeurs d'histoire de l'art et non pas d'histoire des arts, puisque là aussi le glissement sémantique est important. Est-ce que ça n'est pas préférable d'avoir cela plutôt que de créer une polyvalence qui finalement peut contribuer à baisser le niveau des enseignements, Najat Vallaud-Belkacem.
De quoi parlez-vous ? Parlez-vous du brevet, ce faisant ?
Absolument.
Ou parlez-vous de l'évaluation au fil de l'eau ?
De l'épreuve orale.
Mais au brevet, vous avez un jury constitué de plusieurs enseignants.
Avec notamment des professeurs qui ne sont pas forcément issus des disciplines. Je prends l'exemple de l'histoire des arts, tout simplement, parce que ce n'est pas une discipline enseignée au collège.
C'est exactement ce que nous connaissons dans les grandes écoles. Enfin, je ne sais pas, le concours, le grand oral de l'ENA, par exemple, est réalisé par un jury où vous avez des gens qui viennent de disciplines différentes, de profils différents, qui justement sont à même de, d'évaluer si l'élève à la fois connaît le contenu et la théorie, mais aussi la façon dont il le présente. Et c'est ça qu'il faut qu'on améliore au collège. Aujourd'hui, au collège, on est vraiment dans un système trop théorique qu'il faut rendre plus pratique pour s'assurer qu'à la fin, l'élève maîtrise des compétences dont il aura besoin plus tard.
Benoît Bouscarel.
Najat Vallaud-Belkacem a assuré la cohérence d'un projet politique dans le temps politique qu'on connaît, auquel vous êtes confronté. C'est difficile ou c'est plus possible ? C'est dû à quoi ?
Assurer la cohérence d'un projet politique, c'est une
vous
très bonne question.
On aurait pu peut-être étaler dans le temps, mais on aurait perdu la cohérence.
C'est une très bonne question. Moi, ce que je perçois vraiment, c'est par exemple s'agissant de la refondation de l'école. Qui a été engagé à partir de la loi de 2013. C'est que c'est compliqué, en effet, de donner à voir en permanence la cohérence de ce que nous faisons. Alors moi, je n'ai pas le moindre doute sur le fait que ce que nous faisons est cohérent. Je vois bien comment les choses s'agrègent, quelle réforme vient compléter quelle autre réforme, etc.
Mais passe pas.
Est-ce qu'aux yeux de l'opinion publique, les choses sont claires ? Non, honnêtement, ça ne l'est visiblement pas. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons de multiplier les démarches, comme par exemple, il y a 10 jours, ces 2 journées de colloque sur la refondation de l'école pour donner à voir par les acteurs de terrain, puisqu'on nous dit qu'on n'écoute pas les acteurs de terrain. Enfin, les acteurs de terrain, c'est-à-dire les enseignants étaient là, sur scène, en train de décrire leur quotidien et la façon dont ces réformes prenaient vie sur le terrain. Donc, c'est un travail qu'il faut répéter en permanence, parce que la cohérence... Mais pourquoi la cohérence est si difficile à faire percevoir ? Honnêtement, parce que, singulièrement, s'agissant du sujet de l'école, les commentaires ne portent jamais sur le fond des dossiers, ils portent toujours sur l'accessoire.
C'est pas uniquement dû aux commentateurs, Najat Vallaud-Belkacem.
Non, vraiment, mais c'est sans doute dû aussi au personnel politique, aux responsables politiques. Généralement, ce ne sont pas les commentateurs qui lancent les polémiques, c'est évidemment le personnel politique dans l'opposition. Mais enfin, après.
C'est pas non plus uniquement la faute de l'opposition.
Oui, mais le fait est qu'aujourd'hui, je suis sûre que si je vous demande, mais faisons sincèrement l'exercice, je vous demande sur cette dernière année, de quel sujet avez-vous entendu parler dans l'éducation nationale ? Allons-y.
Principalement, en fait, des remontées des profs, parce qu'on n'est pas coupé du reste de la société. Donc on a entendu parler, par exemple, de la question du redoublement, par exemple, de la question des classes bilangues, par exemple, de la question de la suppression ou non des notes jusqu'à la fin du collège, par exemple, de l'affaiblissement des filières L. Bref, toute une série de dossiers, qui, a priori, étaient
mais dont
évidemment...
Vous remarquerez, pardon, je vous interromps,
je vous en
mais
prie.
Dont vous remarquerez que pour 4 sur 5, ils ne correspondent à aucune réalité de réforme. Je veux dire, on n'a pas supprimé les notes. Pourtant, on en a tellement entendu parler qu'on croirait qu'on les a supprimées. Hein.
Oui, mais
on n'a pas supprimé... Okay, que disiez-vous d'autre ?
La question du redoublement.
Le redoublement, en fait, il n'y a pas eu de nouveautés fondamentales introduites. Ça fait des années que notre pays sait parfaitement, si on écoutait un peu les experts de l'éducation, mais les écoute-t-on ? Évidemment, leur pensée est trop complexe pour être résumée en un tweet, donc on les écoute rarement.
Et les experts de l'éducation... Je pense que la France a beaucoup investi en matière de pédagogie, et le fait de défaire dans les IUFM un apprentissage en pédagogie a peut-être contribué à faire en sorte que la pensée en sciences de l'éducation soit moins comprise qu'auparavant.
C'est une petite... Ok, vous aviez un compte à régler. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des... Franchement, des penseurs en sciences de l'éducation. Je ne sais pas, moi, prenez Marie Durubella, Pierre Merle, Agnès Van Zanten. Pourquoi diable ne lit-on jamais la pensée de ces gens dans la presse quotidienne qu'on achète? C'est quand même un problème. Et donc, du coup, ces véritables penseurs-là, eh bien, eux, ils savent depuis des années et des années quels sont les dysfonctionnements du système scolaire. Et ils vous disent que, par exemple, le redoublement n'a pas d'effet positif ni pour les élèves ni pour le système, et qu'il faut penser autrement. Il faut penser en termes de prévention, d'accompagnement individualisé des élèves, d'où ce qu'on fait dans la réforme du collège.
Mais voyez, parmi trois penseurs que vous avez choisis, qui sont trois penseurs légitimes,
oui,
tout à fait autorisés, vous les avez pris au hasard, pensez-vous, peut-être aussi que vous avez choisi des gens qui allaient à l'encontre d'une vision peut-être élitiste de l'école, alors que d'autres pensent que justement, en essayant d'égaliser la condition, en prenant un point de vue égalitariste sur l'école, vous avez, Najat Vallaud-Belkacem, cassé un certain nombre de filières qui avaient leur raison d'être et qui finalement tiraient l'école vers le haut.
C'est quoi le contraire de l'égalitarisme ?
Eh bien, peut-être l'élitisme.
Non, c'est l'inégalitarisme.
Vous non, mais pensez enfin, je veux dire, ma question est absurde. L'égalitarisme est en train de progresser
non,
aujourd'hui
c'est
suite
pas ça,
à votre
c'est
réforme
que, en
du
fait,
collège.
Ma question se veut aussi absurde que le procès qu'on me fait en permanence. Mais qu'est-ce qu'on me reproche concrètement hein? On me reproche de vouloir démocratiser l'accès à la réussite. Pourquoi ? Oui, je veux démocratiser l'accès à la réussite. Et on emploie évidemment pour me faire ce reproche un terme qui fait peur. On va couper les têtes, on est dans une dictature. Pourquoi c'est important de démocratiser l'accès à la réussite ? Parce qu'on est à un stade dans notre pays où on a eu la chance d'avoir une démocratisation de l'accès à l'école. On a une école libre, gratuite, obligatoire, etc. Très bien. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de l'école et à l'intérieur des écoles entre elles et au sein même d'une même école ? Est-ce que vraiment on donne les mêmes chances de réussite à tous les gamins ? C'est vraiment une question simple et je m'adresse à vous, auditeurs, comme parents qui avez sans doute des enfants, au sein de ces enfants une fratrie. Regardez si véritablement chacun de vos enfants aujourd'hui est mis dans la même situation de pouvoir réussir. La réponse aujourd'hui est non. Donc on fait en sorte que les pouvoirs publics créent les conditions de la réussite pour tous les élèves. Ce qui signifie, attention, on arrive rapidement à la conclusion, ce qui signifie que les pouvoirs publics investissent également dans la réussite de chaque élève. Lorsque les pouvoirs publics, comme c'était le cas depuis des décennies, investissaient beaucoup plus dans la réussite d'un petit nombre d'élèves au détriment de tous les autres, car comme vous le savez, les enseignants ne peuvent pas se démultiplier, donc quand ils sont concentrés sur 10% d'élèves, ils ne regardent pas les difficultés des autres, et bien par définition, ces pouvoirs publics créent les conditions d'une inégalité de réussite.
Merci.
Moi, je suis pour l'égalité.
Najat Vallaud-Belkacem, on se retrouve à 8h15 pour continuer à évoquer cela depuis le journal La Croix avec le service politique de La Croix.